Bonjour à toutes et à tous, et merci en tout cas de m'inviter à prendre la parole. C'est bientôt Pâques, et au fur et à mesure que nous avançons dans l'évangile de Marc, nous nous rapprochons des événements si importants de la mort et de la résurrection de Jésus. La semaine dernière, nous avons vu que pour entrer dans le royaume de Dieu, il fallait suivre Jésus, non pas les bras chargés, mais tels des enfants qui ne possèdent rien, qui n'affichent aucune prétention, qui n'ont rien à faire valoir. Et l'enseignement d'aujourd'hui va aussi nous conduire à parler d'humilité. C'est décidément le maître mot de ce que le Seigneur veut enseigner à ses disciples, l'humilité. Et si vous êtes prêts, eh bien je vous invite à écouter la parole de Dieu. En Marc chapitre 10, versets 32 à 45. Ils étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait en tête. L'angoisse s'était emparée des disciples et ceux qui les suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 à part et il se mit à leur dire ce qu'il allait arriver. Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme y sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens. Ils se moqueront de lui, lui cracheront au visage, le battront à coups de fouet et le mettront à mort. Puis, au bout de 3 jours, il ressuscitera. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. Que désirez-vous que je fasse pour vous ? » leur demanda-t-il. Ils répondirent, « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche lorsque tu seras dans la gloire. » Mais Jésus leur dit, « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir ?»« Oui, lui répondirent-ils, nous le pouvons. » Alors Jésus reprit, vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous subirez le baptême par lequel je vais passer. Mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui elles ont été préparées. En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit, vous savez ce qui se passe dans les nations. Ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple. Et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Je vous propose de suivre 3 étapes dans cette prédication. Nous allons prendre d'abord un peu de recul par rapport à notre texte pour récapituler ce que nous avons vu jusque-là dans la section centrale de l'évangile de Marc. Ainsi, nous aurons une vue d'ensemble avant de nous intéresser à ce qui est propre à notre texte. Et enfin, nous nous focaliserons davantage sur la leçon principale que Jésus donne à ses disciples, ce qui nous amènera à l'application. Donc, on prend une grande vue d'ensemble, on rétrécit le champ, on s'intéresse à notre texte, et on rétrécit encore le champ, et on s'intéresse à la leçon principale de notre texte. Ça vous va ? De toute façon, vous n'avez pas le choix. D'abord, la vue d'ensemble. Si vous étiez là fin janvier, nous avions parlé de la composition particulière des chapitres 8 à 10. Nous avons vu qu'à partir du chapitre 8, il y a un tournant dans le ministère de Jésus. La tonalité change. Nous n'avons plus seulement affaire à un Messie qui est puissant, qui guérit, qui fait des miracles. Bien sûr, il va continuer à le faire. Mais nous avons affaire à un Messie qui annonce ses souffrances, qui annonce sa mort prochaine, qui annonce sa résurrection. Et Jésus l'annonce plusieurs fois. Nous l'avons encore lu dans le texte d'aujourd'hui. Et cette section centrale, comme vous le voyez ici, est encadrée par 2 récits où Jésus guérit un aveugle. et nous aborderons le deuxième récit la semaine prochaine. Mais dans le premier récit, où Jésus guérit un aveugle, il le fait en deux temps. Il ne le guérit pas immédiatement. Et l'aveuglement de cet homme qu'on a amené à Jésus est une illustration de l'aveuglement des disciples qui ne comprennent pas qui est vraiment Jésus, qui ne comprennent pas quelle est la véritable nature de sa mission. Jésus va donc ajouter progressivement de la clarté en insistant sur ce qu'ils auront du mal à admettre, qu'il est le serviteur souffrant. C'est ce que nous lisons tout au long des trois chapitres. C'est l'objet des enseignements de Jésus. Une autre caractéristique de cette section centrale, c'est que Jésus est en chemin. Alors vous me direz, c'est normal, Jésus devait se déplacer dans le cadre de son ministère. Jésus est en chemin, il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Mais force est de constater que Marc emploie à plusieurs reprises cette expression. Et particulièrement dans les chapitres 8 à 10. Je vous laisse le constater par vous-même. Marc chapitre 8, verset 27. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe et il leur posa en chemin cette question. Au chapitre 9, verset 33, Jésus pose la question : de quoi discutiez-vous en chemin ? Au verset 34, nous lisons : mais ils gardèrent le silence car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Le chapitre suivant, chapitre 10, le texte que nous avons vu la semaine dernière, au verset 17, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut. Et puis enfin, dans notre texte, verset 32, ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Cela fait beaucoup de répétitions. Donc, ce détail de dire que Jésus est en chemin n'est pas juste un détail, n'est pas juste pour nous dire qu'il est en train de voyager, mais bien pour nous dire que ce chemin-là, Jésus doit l'emprunter. Ce chemin qui le mène jusqu'à Jérusalem. Ce chemin où il doit réaliser le plan de Dieu pour le salut des pécheurs. Et tout à l'heure, nous avons chanté des chants au sujet de ce qu'il a réalisé. Mais il fallait qu'il passe par ce chemin. C'est pourquoi Jésus est constamment en chemin. Et ses disciples qui le suivent, eh bien, n'en mesurent pas vraiment toute la portée. Nous avons vu aussi dans cette section centrale que Jésus est encore parfois avec la foule, mais dans cette section, il consacre beaucoup plus de temps à enseigner ses disciples, ses 12 disciples en privé. Au chapitre 9, par exemple, nous lisons qu'il conduit Pierre, Jacques et Jean à l'écart, sur une haute montagne, où il leur apparaîtra transfiguré, glorieux. À un autre moment, Marc précise que Jésus ne voulait pas qu'on sache où il était. Pourquoi ? Parce qu'il enseignait ses disciples. Comprenez, il les enseignait en privé. Donc il ne voulait pas qu'on sache qu'il était là. Et puis ensuite, Jésus se retrouve dans une maison, et c'est dans cette maison-là que Jésus continue d'enseigner ses disciples, en privé. Jésus leur enseigne ce que signifie être un disciple, ce que signifie suivre le Christ, loin des rêves de grandeur. Et nous voyons également dans le texte de cet après-midi que Jésus a des choses à dire spécialement aux 12. Vous le voyez au verset 32, Jésus prit de nouveau les 12 à part. Et puis au verset 42, Jésus les appela tous auprès de lui, après avoir parlé avec Jacques et Jean. Donc vous voyez cette exclusivité, cette particularité où Jésus prend le temps d'enseigner ses 12 disciples, spécialement ses 12, loin de la foule, loin de tous ceux qui veulent le chercher pour être guéris ou quoi que ce soit d'autre. Particularité des chapitres 8 à 10 de l'évangile de Marc. Et parmi les choses que Jésus a à dire, il est difficile de ne pas repérer dans cette section centrale les trois annonces que Jésus fait de ce qu'il attend. À chaque fois, après ces annonces, les disciples agissent d'une manière totalement décalée. C'est ce que vous voyez dans le tableau. J'ai repris ce tableau de mes cours sur le sujet. Et à chaque fois, on a l'annonce de Jésus, ensuite une mauvaise réaction des disciples, et puis ensuite, Jésus qui doit les reprendre, qui doit les corriger, qui doit corriger leur manière de penser, qui doit leur enseigner les valeurs du royaume de Dieu. Valeurs que tout disciple digne de ce nom devrait avoir. Donc voyez, à trois reprises, nous avons le même schéma. Et dans notre texte, qui est le chapitre 10, à partir du verset 32 à 45, le même schéma est repris, comme les deux autres fois. Pas une seule fois, les disciples ne prennent la mesure de ce qui attend leur maître et de ce que cela implique pour eux. Les disciples pensent plus à des questions du type « qui est le plus grand parmi eux ?» Imaginez un décalage aussi grand entre un parent qui annonce à ses enfants qu'il est atteint d'une maladie grave et incurable et à qui il reste peu de temps à vivre. Et puis les enfants, bien qu'adultes, qui continuent de profiter de la vie, de parler de projets d'avenir, qui ne se déplacent même pas pour voir leurs parents, comme s'ils n'avaient pas entendu la nouvelle. Imaginez ce décalage. Je me demande parfois ce que Jésus ressentait face à un tel décalage avec ses disciples qui ne comprenaient tout simplement pas ce qui allait se passer. Jésus leur annonce qu'il va souffrir et qu'il va mourir, et tout ce que les disciples trouvent de mieux à faire, c'est de se demander qui est le plus grand parmi eux. Voilà donc quelques éléments de cette vue d'ensemble. Maintenant, nous allons nous concentrer sur notre texte. Demandons-nous d'abord, qu'est-ce qui est propre à la troisième annonce de Jésus ? Parce que Jésus, bien sûr, sait ce qu'il attend à Jérusalem. D'ailleurs, vous le voyez dans notre texte, il marche en premier, en tête de cortège. C'est lui qui marche devant. Il sait ce qui doit lui arriver, mais malgré tout, il prend les devants et il y va. Ensuite, il est question des disciples, plus ceux qui les suivaient. Donc, autrement dit, on a l'impression que le groupe commence à grossir. Il est possible, d'ailleurs, qu'à l'époque, à ce moment de l'année, à l'approche de la fête de la Pâque, eh bien, des pèlerins se joignaient à eux, tout simplement. Donc, le groupe commence à grossir, parce que d'autres vont aussi à Jérusalem pour fêter la Pâque. Et je rappelle que la Pâque a distingué de la fête que nous allons célébrer dans deux semaines. La Pâque, à cette époque, était l'une des grandes fêtes instituées par Dieu, durant laquelle son peuple célébrait sa libération de l'esclavage imposé par les Égyptiens. Voilà ce qu'était la Pâque. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de Pâque, tout court, nous pensons à la résurrection de Jésus. Donc, à bien distinguer. Et je crois que chaque année, je répète la même définition, mais c'est important. Et sans l'expliquer, Marc nous indique un peu juste l'atmosphère qui régnait dans ce cortège. Mais il ne nous dit pas pourquoi. L'angoisse, la crainte. Les disciples suivent Jésus, ils sont angoissés, ils ne savent pas pourquoi. Ou peut-être qu'il y a des raisons, mais en tout cas, on ne sait pas pourquoi. Et vous savez, lorsque nous rejoignons un cortège, en général, on sent ce genre d'atmosphère. Et donc, ceux qui suivent aussi derrière sont aussi dans la crainte. Il se passe quelque chose, on ne sait pas exactement quoi. Mais voilà un petit peu l'ambiance. S'ajoute à cela le fait que Jésus devient de plus en plus explicite dans ses déclarations. Il devient de plus en plus clair par rapport à ce qu'il doit lui arriver. Et c'est ce que nous lisons dans les versets 33 à 34. « Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme y sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. » Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens. Ils se moqueront de lui, lui cracheront au visage, le battront à coups de fouet et le mettront à mort. Puis, au bout de 3 jours, il ressuscitera. Si on compare cette déclaration de Jésus avec les deux autres, puisqu'on a bien vu qu'il y avait 3 annonces, nous voyons qu'à chaque fois, Jésus annonce qu'il souffrira de la part des hommes. Et que 3 jours après, donc il souffrira jusqu'à en mourir, et que 3 jours après, il ressuscitera. Mais cette fois-ci, la troisième fois, Jésus détaille les événements, ce qui va lui arriver. Et j'ai mis en couleur ce qui s'ajoute à tout ce qu'il a déjà dit. Qu'est-ce qu'il ajoute ? Eh bien d'abord, il mentionne la destination. C'est à Jérusalem que ça va se passer. Ensuite, il parle de sa condamnation à mort. Condamnation par les chefs religieux juifs. Ensuite, il parle de son sort qui est remis entre les mains des païens. Et jusque-là, les païens n'étaient pas du tout mentionnés. Et voyez quel traitement. Voyez quel traitement notre Seigneur a connu. Les moqueries, les crachats, les coups de fouet avant l'exécution. Et malgré tout cela, Jésus marche en tête de cortège vers Jérusalem. Et Jésus parlera encore de sa mort au verset 45 et nous y reviendrons. Après une telle annonce, je ne sais pas quelle est l'ambiance là dans la salle, visiblement une ambiance où on prend quand même au sérieux ce que Jésus est en train de dire, mais ce n'est pas le cas des disciples à ce moment-là. Après une telle annonce, on s'attendrait à ce que les disciples soient encore plus angoissés. On s'attendrait à ce que les disciples soient tristes, qu'ils marchent la tête baissée. Mais les versets qui suivent nous interpellent par le contraste entre ce que Jésus vient de dire et la demande incroyable de deux de ses plus proches disciples, Jacques et Jean. Jacques et Jean qui sont ses deux frères, vous savez comment Jésus les a surnommés ? Les fils du tonnerre. Alors peut-être à cause de leur tempérament. Jacques et Jean, les fils du tonnerre. Ceux qui sont un peu impulsifs, un peu comme Pierre. D'ailleurs, vous remarquez que c'est les trois qui font partie du cercle le plus proche de Jésus. Et ces deux-là osent demander la faveur suivante à leur maître. Verset 37. Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche lorsque tu seras dans la gloire. Nous sommes au summum du décalage entre Jésus qui s'engage vers une humiliation toujours plus grande et des disciples qui ont des rêves de grandeur, qui recherchent des places d'honneur. Ils veulent être à droite et à gauche de Jésus quand il sera dans sa gloire. Certes, ils ont compris que Jésus était le Messie choisi par Dieu. Ils ont vu Jésus transfiguré sur la montagne. Ils ont vu sa gloire. Donc ils savent à qui ils ont affaire. Et sans doute qu'en sachant qu'ils montaient à Jérusalem, ils ont un petit peu imaginé qu'à Jérusalem, une fois arrivés à Jérusalem, dans la ville des rois d'autrefois, Jésus allait régner. C'est sans doute ce qu'ils pouvaient penser. On va à Jérusalem et c'est là que Jésus va vraiment se montrer comme roi et qu'il va régner. Ils imaginent son heure de gloire. Et qui de mieux que Jacques et Jean pour être assis à ses côtés ? Peut-être que Jésus a soupiré à ce moment-là. En tout cas, Marc nous rapporte sa réponse, verset 38. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir ? Jésus montre à ses disciples que son heure de gloire n'est pas ce qu'ils imaginent. Jésus fait allusion à la mort qui l'attend en employant ces deux images, la coupe et le baptême. Comme vous êtes des lecteurs assidus de l'Ancien Testament, vous savez que la coupe peut avoir une connotation positive dans certains textes. Pensez au psaume 23, quand la coupe déborde, connotation positive. Mais aussi la coupe, dans une connotation plus négative, renvoie au jugement de Dieu. Je vous donne quelques exemples. Psaume 75, verset 9. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de liqueurs mêlés. Il en verse et tous les méchants de la terre boivent. Il vide la coupe jusqu'à la lie. Ésaïe 51, verset 17. Réveille-toi, réveille-toi. Lève-toi, Jérusalem. Toi qui as bu, donné par l'Éternel, la coupe de sa colère. Qui a bu, qui a vidé jusqu'au fond la coupe destinée à étourdir. Autre référence, Jérémie 25, verset 15. Oui, voici ce que m'a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends dans ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et donne-la à boire à toutes les nations vers lesquelles je vais t'envoyer. » Cette coupe-là, dont il est question, n'est pas du tout une coupe plaisante. Elle est pleine de la colère de Dieu. Colère de Dieu qui se dirige à la fois vers les nations, mais aussi vers son propre peuple, à cause de leurs péchés. Et quand Jésus parle de la coupe, au verset 38, coupe qu'il demandera plus tard au Père d'éloigner si c'était possible, il fait référence au jugement divin qui retombera sur lui. Et en ce sens, même si Jésus affirme à ses disciples qu'ils passeront aussi par là, Jésus est le seul à pouvoir boire cette coupe, à être frappé du jugement que nous méritions. Car c'est nous qui avons payé, qui avons péché, et pas lui. Seul Jésus est capable de boire cette coupe-là. Et quant à l'image du baptême, l'expression est un peu plus originale. La seule référence que nous avons au baptême, c'est le baptême que Jean-Baptiste pratiquait. Et Jésus utilise cette image pour évoquer sa mort prochaine. Au lieu de plonger dans l'eau, il plonge dans la mort. Et certains commentateurs pensent même à un sens plus symbolique. Lorsque Jean baptisait, les Juifs qui venaient à lui, eh bien, faisaient une démarche de repentance. Ils regrettaient leurs péchés. En plongeant dans l'eau, ils déposaient symboliquement leurs péchés. Et lorsque Jésus se fait baptiser à son tour, bien sûr, il n'a pas de péché à déposer. Mais en plongeant dans l'eau, il prend sur lui, symboliquement, les péchés déposés par le peuple. Et en employant l'image du baptême, eh bien, Jésus ferait référence, en tout cas, au fait que sa mort est en lien avec les péchés de son peuple. Et là non plus, les disciples ne connaîtront pas ce baptême au même titre que Jésus. Oui, ils souffriront à cause de Christ, et même jusqu'à la mort, mais seule la mort de Jésus a une portée rédemptrice. Seule sa mort compte pour notre salut. Alors il nous faut quand même dire un mot du verset 40. Parce que Jésus dit, voilà, vous allez aussi effectivement passer par la coupe et par le baptême par lequel je vais passer, mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui elles ont été préparées. D'un côté, Jésus montre à ses disciples qu'il n'est pas en mesure d'accéder à leurs demandes. Vous me demandez cela, mais je ne peux pas vous l'accorder, parce que ces places d'honneur sont déjà pourvues. À qui ? Eh bien, nous ne le savons pas. Mais d'un autre côté, nous pouvons lire ce verset avec une certaine ironie. Puisque Jésus vient de faire allusion à sa mort, le trône sur lequel il va d'abord s'asseoir, c'est la croix. Après tout, nous lisons au-dessus de sa tête l'inscription suivante : le roi des Juifs. Le trône sur lequel Jésus va s'asseoir, c'est la croix. Et est-ce que vous savez ce qui est écrit au verset 27 ? Après Marc 15, verset 26, il y a le verset 27. Vous savez qu'est-ce qui est écrit ? Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Autrement dit, ces places si convoitées par Jacques et Jean, et sans doute par les autres disciples aussi, reviennent à ceux pour qui elles ont été préparées. C'est-à-dire, ironiquement, à ces deux brigands crucifiés aux côtés de Jésus. L'ironie est forte, n'est-ce pas ? Jacques et Jean demandent d'être assis à droite et à gauche. Jésus leur dit non, vous ne pouvez pas. Il y en a d'autres pour qui c'est prévu. Et là, en l'occurrence, un brigand à droite, un brigand à gauche. Et les autres disciples ne tardent pas à mal réagir face à l'audace des deux frères, ce qui donne l'occasion à Jésus de leur donner une nouvelle fois une leçon d'humilité. Et si vous êtes encore un petit peu éveillés, eh bien nous passons à cette dernière partie où nous allons nous intéresser particulièrement à ce que Jésus veut enseigner à l'ensemble de ses disciples, pas seulement à Jacques et à Jean, mais aux douze, et bien sûr par extension à nous. Verset 42. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit, « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple, et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. » Jésus relève comment les grands de ce monde exercent leur pouvoir. Et cela a toujours été ainsi. Déjà avant l'époque de Jésus, à son époque et encore aujourd'hui. Les chefs dominent, les chefs gouvernent en dominant. C'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus grand. Et nous savons combien cette question intéressait les disciples. Qui est le plus grand ? Mais comme la dernière fois, Jésus est clair là-dessus. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Comment un disciple de Jésus est censé raisonner ? Eh bien, la réponse, nous l'avons sous les yeux. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Jésus a déjà enseigné cela auparavant, si vous vous souvenez, au chapitre 9. Jésus a déjà dit ces mêmes paroles, mais visiblement, les disciples n'ont pas bien compris. Visiblement, les disciples n'ont pas compris la leçon puisqu'ils ne l'appliquent pas, puisque leur manière de se comporter les uns à l'égard des autres est plus fondée sur la rivalité que sur le service. La grandeur, comme Jésus le définit, ne passe pas par la domination des autres. La grandeur, elle se voit au contraire dans le service des autres. Et devrais-je préciser, de tous les autres. Et voici la raison pour laquelle Jésus demande à ses disciples d'avoir une telle disposition de cœur. Vous connaissez ce verset 45. Car, donc c'est ça la justification, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Si Jésus, le Maître, le Fils de l'homme, est venu pour servir, à combien plus forte raison ses disciples doivent aussi servir les autres. Et c'est sûr, cela va à l'encontre des principes de ce monde, si attaché au prestige, si attaché à la performance, si attaché à la grandeur, m'as-tu vu ? Jésus n'est pas venu pour se faire servir, lui qui est pourtant le maître. Henri Blocher a fait remarquer que bien que Jésus dise cela, il n'a pas renoncé à l'autorité. C'est toujours lui qui commande dans le groupe. C'est toujours lui qui marche devant les autres. Bien que Jésus dise cela, il n'a pas renoncé à son autorité. C'est lui le chef. Mais un chef qui sert les autres. Bien plus, son service va jusqu'à donner sa vie pour d'autres. Et dans ce verset 45, il est question de rançon. Une rançon pour libérer celles et ceux qui sont esclaves, celles et ceux qui sont sous l'emprise du péché. Et il semble que Pierre, qui avait écouté cette leçon, a été marqué par cette idée de rançon, puisqu'il écrit dans sa première épître, dans 1 Pierre chapitre 1, versets 18 et 19, « Vous avez été libérés, » il s'adresse aux chrétiens, « vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. » Ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Voilà la rançon. Enfin, à cet endroit de l'évangile de Marc, Jésus se montre plus clair par rapport à la raison de sa mort. Jusque-là, il avait juste annoncé à ses disciples qu'il allait mourir, mais il n'a pas expliqué pourquoi. À cet endroit, en Marc chapitre 10, verset 45, il dit pourquoi. Il donne sa vie en rançon. Pour beaucoup. Pour beaucoup. Est-ce que cette expression vous a déjà étonné ? Jésus ne dit pas qu'il a donné sa vie en rançon pour tous, mais il dit pour beaucoup. Cette expression, nous la retrouvons dans un autre texte, dans l'Ancien Testament, en Ésaïe chapitre 53. Vous connaissez Ésaïe 53 ? Oui ? Rassurez-moi. Ce texte qui est aussi l'un des quatre chants du serviteur. Et voici ce que nous lisons à la fin de ce chant. Ésaïe 53, versets 11 et 12. « Après les tourments de son âme, il rassasira ses regards. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. » Quand Jésus utilise cette expression-là, il fait référence, entre autres, à ce texte d'Ésaïe 53. Pour dire quoi ? Pour dire que lui est le serviteur qu'Ésaïe a annoncé. Il est celui qui paye pour beaucoup. Ce groupe des beaucoup, ce sont celles et ceux qui bénéficient de l'œuvre accomplie par le serviteur. Ce serviteur qui s'est livré lui-même à la mort. Ce serviteur qui a porté leur péché. Et quand nous regardons à l'œuvre de la croix, à l'exemple de Jésus qui est venu pour servir et donner sa vie pour beaucoup, pour nous, nous ne pouvons pas faire preuve d'orgueil dans l'Église. Si nous suivons la logique du Maître qui nous rend service, il est impensable que nous nous comportions comme des personnes qui viennent pour être servies. Le vrai disciple de Jésus, frères et sœurs, est un serviteur comme son maître. Le service n'est pas seulement celui qui est mentionné par écrit parce que mon nom figure dans un tableau. Vous savez, dans l'Église, on fonctionne pas mal avec des tableaux et on s'inscrit lorsqu'on doit être de service. Mais le service ne se limite pas qu'à ça. Dans l'Église, il y a tout type de besoins et donc tout type de service. Nous ne devrions jamais être à court de serviteurs dans l'Église. Sinon, cela signifie qu'il y a un problème. Et l'un des problèmes pourrait être le suivant, c'est que nous aurions plus de personnes venues pour être servies que pour servir. Voilà le problème. Tout comme pour ses 12 disciples, l'enseignement de Jésus nous permet de nous réajuster. Est-ce que je suis dans cette disposition ? Est-ce que je viens pour servir et non pour être servi ? Souviens-toi de Jésus en tant que serviteur. Bien sûr, on se souvient de lui en tant que Seigneur et Sauveur, mais souviens-toi qu'il est serviteur aussi. Et d'ailleurs qu'il est venu pour te servir, pour nous servir. Et si tu te souviens de lui en tant que serviteur, eh bien marche à sa suite en étant toi-même serviteur, servante, en étant toi-même esclave de tous. Et je dois vous faire un aveu quand même. Alors j'avais déjà fait un aveu il y a quelques semaines, alors vous allez me dire, mais le pasteur est en train de se confesser. Mais là je dois quand même faire un aveu parce que lorsque je lis notre texte, forcément, je pense à certaines choses en ce qui me concerne. Je dois vous avouer que j'ai la fâcheuse tendance à ne pas me porter volontaire quand il y a besoin. Vous savez, y a-t-il 2 ou 3 volontaires pour aider, pour faire le ménage ou pour autre chose ? J'évalue la tâche et je m'abstiens de lever la main. Et le Seigneur m'a repris à ce sujet. Parce que dans ces moments-là, dans mon cœur, eh bien, je ne raisonne pas comme un serviteur. Je ne raisonne pas comme Jésus. Le Seigneur, à cause de ce qu'il a fait pour moi, me convainc désormais de lever la main au lieu de résister. Est-ce que certains se reconnaissent dans ce que je viens de dire ? Est-ce qu'il y a ces moments où on fait appel à l'aide, où on demande un service et vous avez juste une fraction de seconde où vous dites « Non, je ne vais pas le faire. » Eh bien là, mes amis, disons-le très clairement, nous ne sommes pas en train de raisonner comme un serviteur. Et donc, nous ne sommes pas en train de raisonner comme Jésus, Et donc, pour un disciple, c'est quand même plutôt grave. Mais au contraire, j'aimerais vous lire ce témoignage. Certains d'entre vous connaissent Raphaël Charrier, et il a écrit un livre qui s'intitule « Vivre pour Jésus ». Et dans ce livre-là, il rapporte son expérience dans le service de l'Église. Voici ce qu'il dit. « Je me souviens, lorsque je me suis converti, je me suis pendant un temps lancé ce défi. Dès qu'un appel à des volontaires est lancé ou un besoin exprimé, je lève la main. Je me suis retrouvé à aller visiter de vieilles dames que je ne connaissais pas, à faire le ménage des locaux, à réaliser des travaux chez des mères isolées, à aller faire des courses pour des familles dans le besoin, à distribuer des tracts dans la rue et à faire de nombreuses autres choses que je n'avais jamais accomplies auparavant. À l'occasion de tous ces services, je côtoyais des frères et sœurs et voyais avec quel amour ils servaient les autres. Quelle formation pour moi. » Effectivement, si on répond à tous les appels aux volontaires, on va être amené à faire beaucoup de choses. Et à rencontrer aussi des frères et sœurs qui sont tout aussi volontaires. Si tu ne sais pas comment tu peux servir l'Église, si tu ne sais pas comment tu peux appliquer ce que Jésus nous enseigne dans ce texte, eh bien, viens en parler avec l'un des diacres, viens en parler avec l'un des pasteurs, et nous te trouverons quelque chose à faire. Je dois vous dire quelque chose, nous ne cherchons pas à être la meilleure église du coin. Nous ne cherchons pas à être la plus grande église du coin, ni même la plus tendance. Mais nous aspirons au moins à une chose par rapport au texte d'aujourd'hui. Nous aspirons à être une communauté de serviteurs. Vous êtes d'accord avec ça? Nous aspirons à être une communauté de serviteurs. Je ne sais pas si beaucoup d'églises affichent cela, mais pourquoi pas l'église de Saint-Maur? Venez à l'église de Saint-Maur, nous sommes une communauté de serviteurs. Parce que notre maître est un serviteur. Ainsi, si nous vivons avec cet état d'esprit, si nous vivons l'église de cette manière-là, premièrement, nous reflétons Jésus tel qu'il s'est vraiment révélé. Lui qui s'est présenté aux hommes comme le serviteur par excellence. En étant serviteurs les uns des autres, non seulement nous obéissons à ce que le Seigneur demande à ses disciples, mais en plus de cela, et c'est peut-être encore plus profond et moins perceptible pour nous, c'est que nous communiquons l'Évangile. Pourquoi ? Parce que la seule explication qui pourrait vraiment expliquer pourquoi dans l'Église on est en train de se servir les uns les autres, c'est parce que Jésus est venu dans ce monde pour servir. Nous annonçons l'Évangile lorsque nous sommes au service les uns des autres. Nous montrons que dans l'Église, ça se passe comme ça, parce que Jésus, lui, nous a montré cet exemple-là. Parce que Jésus, lui, l'a fait pour nous. Il est venu pour servir, pour nous servir, pour donner sa vie en rançon. Pensez-y lorsque vous êtes en train de servir dans l'Église. Lorsque vous êtes en train de servir les autres, nous formons une communauté de serviteurs parce que notre maître est ce serviteur par excellence. Alors, je termine là. J'ai déjà été assez long. Mais je termine avec quelques questions. Et j'aimerais que cela puisse nous amener justement à y réfléchir maintenant. Qu'est-ce que le Seigneur cherche à corriger en nous? Qu'est-ce que le Seigneur cherche à corriger en nous? Premièrement, est-ce que le Seigneur cherche à corriger le regard que nous portons sur les autres frères et sœurs? Si nous ne considérons pas leurs intérêts comme supérieurs aux nôtres, il y a peu de chances que nous nous comportions en serviteurs à leur égard. Est-ce que le Seigneur cherche à corriger notre regard que nous portons sur les services à rendre? Si nous considérons que ces tâches sont des tâches ingrates, inintéressantes, alors que le besoin est là, il y a peu de chances que nous nous comportions en serviteurs des autres. Ou bien est-ce que le Seigneur est en train de corriger le regard que nous portons sur lui-même ? Lui qui est roi et qui s'est fait serviteur, en allant jusqu'à donner sa vie pour nous. Parce que si nous oublions qui est vraiment Jésus et ce qu'il a fait pour nous, il y a peu de chances que nous nous comportions en esclaves de tous. Prenons un temps maintenant pour réfléchir à cela. Demandons-nous vraiment qu'est-ce qui fait que parfois nous ne sommes pas le serviteur que nous devrions être dans l'Église. Notre Père, nous voulons te rendre grâce parce que durant ce moment où nous étions à l'écoute de ta parole, sans doute que certains d'entre nous, nous avons été particulièrement interpellés parce que nous ne pouvons pas rester insensibles aux paroles de Jésus. Nous ne pouvons pas rester insensibles au fait que lui s'est donné un exemple, mais un exemple qui a un lien avec nous, un exemple que nous sommes censés suivre. Oui, Seigneur, accorde-nous de pouvoir être ces serviteurs, ces servantes que tu demandes. C'est ce que tu attends de ton Église. Et nous ne voulons pas être infidèles à cette vocation. Mais au contraire, nous te demandons que l'Église de Saint-Maur soit une communauté de serviteurs. Te prions pour cela, Seigneur, parce que nous savons que tu peux opérer cette transformation dans notre cœur, que tu peux changer notre mentalité, nous permettre de nous réajuster par rapport à tes standards et non pas aux standards de ce monde. Nous te demandons, Seigneur, que tu changes notre manière de penser, notre mentalité, et que nous puissions toujours être portés à vouloir servir nos frères et sœurs comme toi, tu es venu pour servir. Oui, Seigneur, nous voulons porter toute notre attention sur ce que tu as accompli, Seigneur Jésus. Nous voulons porter toute notre attention sur le fait que c'est toi le serviteur qui a été envoyé par le Père. Que tu es venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner ta vie en rançon pour beaucoup. Et merci parce que tu nous as intégrés dans ce beaucoup. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce sacrifice parfait, pour ce prix qui a été payé et qui nous donne une raison suffisante pour servir nos frères et sœurs. Parce que tu t'es abaissé jusqu'à ce point. Merci pour ton Église. Merci pour mes frères et sœurs qui ont à cœur de servir les autres. Et veuille nous accorder encore la grâce de pouvoir nous encourager mutuellement dans ce service joyeux. À la fois, nous te servons, c'est vrai, Seigneur, mais nous nous servons aussi les uns les autres. Et tout cela pour que toi, tu sois glorifié. Et tout cela pour que ton évangile puisse transparaître de notre manière de vivre l'Église. Oui, c'est pour ta gloire que nous te prions cela. Amen.